RFI.
Mondial Sport sur RFI.
Hugo Moissonnier.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mondial Sport, histoire de terminer la semaine ensemble en beauté. À la une ce dimanche, la sprinteuse de diamant Muriel Aouré, l'ivoirienne de retour au premier plan. Elle revient en exclusivité pour RFI sur sa superbe saison. Le football, le cyclisme, le basket et même du volley viendront agrémenter ce beau programme dominical. Matteo Cioffi nous dira pourquoi Cristiano Ronaldo ne marque toujours pas sous les couleurs de la Juventus Turin. Pierre Chaperon nous parlera de la Vuelta, le Tour d'Espagne. Cédric de Oliveira nous donnera des nouvelles de l'équipe de France de volleyball à quelques jours du coup d'envoi des championnats du monde. Enfin, nous reviendrons sur l'afro-basket des moins de 18 ans. On remercie Valentin Vaner et Laurent Philippot qui assurent la réalisation de l'émission ce soir. Mondial Sport, c'est parti. Mais pour ouvrir cette émission, comme promis, une championne d'exception, la sprinteuse ivoirienne Muriel Aouré. Elle vient de boucler une saison 2018 sensationnelle, Muriel Aouré, que vous avez eu au téléphone. Éric Chorin, bonsoir.
Bonsoir Hugo, décontractée, disponible et souriante, en dial. Oui, oui, ça s'entend même au téléphone. Muriel Aouré a accepté de revenir sur sa belle année, une année qu'elle a bouclée en beauté, comme vous l'avez dit, jeudi, en remportant le 100 mètres de la finale de la Ligue de Diamants à Zurich, alors que l'on attendait plutôt sa compatriote Marie-Josée Talou, finalement troisième. Mais après une année 2017 difficile pour elle sur le plan personnel et sur le plan sportif, 2018 avait commencé tout aussi fort en janvier dernier à Birmingham, quand Muriel Aouré, 31 ans depuis une semaine, remportait enfin son premier titre mondial. C'était en salle sur 60 mètres avec le record d'Afrique à la clé en 6 secondes 97 devant la même Marie-Jo, un titre mondial après lequel Muriel courait depuis sa première médaille d'argent mondiale en 2011. Ça partait plutôt bien.
Oui, absolument, absolument, le titre. Commencer la saison avec le titre de championne du monde, un titre que j'ai poursuivi pendant près de, je sais pas quoi, depuis 2012. Et enfin, en 2018, cette année, je l'ai gagné et être la première africaine à le faire. Et en plus de ça, descendre en dessous de 7 secondes, faire 6,97, c'était formidable. Et j'étais très contente de pouvoir hisser très haut le drapeau orange-blanc-vert et le drapeau de la Côte d'Ivoire, quoi. Donc c'était formidable.
Un début de saison marqué aussi, en plus, par un record d'Afrique sur cette distance. Hein. Vous êtes allé le chercher quand même, ce titre.
Ah oui, j'ai travaillé pour ça. C'était le but. Au début de la saison, j'ai dit à mon entraîneur et moi et tout mon staff et toute mon équipe, on s'est assis, on a dit ok, bon, on voulait vraiment le record du monde, mais malheureusement, on a eu le record d'Afrique. Donc c'était quand même bon. Le but, c'était juste gagner. Après ça, si j'étais relax et j'exécutais bien, je pouvais tout peut arriver quoi.
En plein air sur la saison, évidemment, on n'est pas une saison de grand championnat pour le plein air. En salle, vous avez eu le titre, donc c'était parfait. C'était la Ligue de Diamants cette année. Vous avez été présente, mais d'autres athlètes étaient présentes, dont notamment Marie-Josée Talou, qu'on attendait peut-être plus que vous pour la finale. Et c'est vous, finalement, qui repartez victorieuse en finale, avec le diamant en plus.
Ah oui, avec le diamant, parce que c'est ce que mon entraîneur me dit. Mon entraîneur me dit toujours, les gens se rappellent seulement du début et de la fin. Tout ce qui se passe au milieu, c'est pas important, c'est juste les finales qui comptent. Et pour moi, mon but, c'était venir cette année et gagner le diamant. Donc j'ai pris ma saison un peu plus lentement que tout le monde. J'ai beaucoup plus pris mon temps. Je me suis entraînée très dur. Je suis allée dans des compétitions vraiment après avoir fait de très grandes séances et des séances lourdes avec les jambes lourdes et tout ça. Mais je me suis battue tout ça. Et tout ça, c'était pour préparer la finale et la Ligue du diamant. Donc il m'a dit juste viens à Zurich et mets tout en place, quoi. C'est-à-dire que fais un très bon départ, lève-toi et pousse bien et jusqu'à la fin et j'ai gagné. Donc je suis super, super contente.
Est-ce que je dis que si vous aviez deux rendez-vous cette année et que vous les avez honorés dans les deux cas, c'est juste?
Ah oui, c'est ça, hein, c'était le but, parce que cette année, c'est juste une année, comme vous avez dit, il y a rien, quoi. Donc c'était juste une année pour pouvoir me, me remette en place, parce que l'année dernière, c'était une année très dure pour moi. J'ai perdu mon père et donc se remettre en plus physiquement, parce que j'ai pas fait beaucoup de compétitions l'année dernière, et revenir comme ça avec gagner le championnat du monde en salle et après ça préparer la saison, donc faire beaucoup moins de compétitions que je fais d'habitude, mais bien choisir les compétitions, parce que juste faire assez pour pouvoir me qualifier pour la finale. Et toute la saison, j'avais tous les points, donc j'étais toujours classée première, donc j'étais très contente. Classée première dès du début et finir première, c'est formidable.
Alors Muriel, on l'a dit, vous aviez eu une saison et une année 2017 difficile sur le plan personnel, sur le plan physique aussi. 2019 va de nouveau y avoir un championnat du monde en plein air. Est-ce que là aussi, il vous manque il manque juste l'or en fait au championnat du monde.
Oui, il manque juste l'or.
C'est ça l'objectif.
Oui, c'est ça l'objectif, parce que j'ai 5 médailles au championnat du monde maintenant, 4 médailles d'argent et une médaille d'or enfin. Donc pour moi, c'est de l'or seulement. Donc je cherche à continuer de travailler dur et me préparer pour 2019 et en plus de ça, les Jeux Olympiques en 2020. Donc je prends ça de saison en saison. Cette année, au moins, le but, c'était juste de faire assez de compétition pour rester, être assez en forme, pour mettre le paquet quoi, pour l'année prochaine. Parce que c'est l'année prochaine et l'année surprochaine qui sont très, très importantes.
Qu'est-ce qui a changé éventuellement dans votre préparation physique, mentale, pour honorer ces grands rendez-vous aujourd'hui? Parce que ça fait longtemps qu'on vous connaît. Vous êtes la reine du sprint ivoirien et du sprint d'Afrique de l'Ouest depuis un moment.
Merci beaucoup.
Mais c'est vrai. Et qu'est-ce qui pouvait manquer encore pour que vous franchissiez encore un cap avec toute l'expérience que vous avez?
Ah, pour moi, c'est je me focus beaucoup plus sur les grandes compétitions, parce que je veux pas. J'ai 31 ans maintenant. Je viens juste d'avoir 31 ans le 23 août. Donc, il faut faire très attention quand tu commences à prendre un peu plus d'âge, se réserver, être beaucoup plus réservé, ne pas trop se déparpiller, courir de gauche à droite. Il faut juste bien planifier l'année, faire choisir bien les courses pour ne pas être fatigué à la fin de la saison. Donc, c'est juste avoir un plan. Et suivre le plan et écouter l'entraîneur et travailler dur, quoi, c'est ça.
Alors un dernier mot, il y a une autre athlète ivoirienne, Marie-Josée Talou, qui vous accompagne aujourd'hui. Vous êtes vraiment deux sprinteuses ivoiriennes, vous avez des parcours différents, vous ne vivez pas au même endroit non plus, vous vous croisez régulièrement. Il y a quand même eu quelque chose dans la foulée de votre avènement à vous, Muriel Aouré, avec Marie-Josée Talou et aussi avec les garçons.
Ah oui, c'est super, parce que de toute façon, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, hein. Et en plus de ça, être sur le toit du monde entier sur 100 et 200 mètres, c'est formidable pour l'Afrique et c'est une très bonne opportunité pour attirer la lumière sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est formidable, quoi, parce que on va aux compétitions, on donne tout, on fait tout pour défendre nos couleurs et les couleurs du pays. Et en tout cas, le chemin que Gabriel Thiago a tracé pour nous est formidable. Donc on continue de travailler et de prendre la relève.
C'est les vacances maintenant?
Ah oui, absolument, moi. Jeudi, c'était ma dernière course, donc je suis très contente. J'ai toujours fini la saison en beauté avec mon premier trophée et championne de Diamond League, donc je repars à la maison et je me repose et on se revoit l'année prochaine en 2019.
Rendez-vous est pris.
Voilà.
Vous avez vu, Hugo, j'ai rencard l'an prochain.
Oui, enfin, laissez-la profiter de ses vacances en attendant. Et puis, vous avez encore du travail pour nous. Vous retrouvez en fin d'émission pour parler basket.
Ok.
N'est-ce pas?
Je reviens.
Très bien. Le football dans Mondial Sport, la suite et la fin de la 4e journée de Ligue 1. Tout d'abord, il y avait 3 rencontres à suivre aujourd'hui. Et en clôture, un choc. Monaco-Marseille. Thomas de Saint-Léger, bonsoir.
Bonsoir, Hugo.
Monaco-Marseille, match à rebondissement au final, remporté sur le fil par l'OM, ça fait 3-2 au final.
Sur le fil, oui, un but de la tête dans le temps additionnel d'un ancien de la maison monégasque, Valère Germain, ça fait 3-2. Et c'est plutôt mérité quand même quand on rembobine le film de cette rencontre, avec d'abord une première période maîtrisée par l'OM. Mitroglou, de la tête là aussi sur un centre de Payet, concrétise tout ça juste avant la pause.
Et ensuite, Thomas, c'est Adil Rami qui entre en scène, un peu dans le mauvais sens.
Dans un rôle tragicomique, d'abord une relance complètement ratée en forme d'offrande pour les attaquants monégasques, Tielemans conclut et puis une intervention malheureuse qui permet à Falcao de porter le score à 2-1. Finalement, Thauvin et donc Germain vont sauver en quelque sorte la soirée de l'OM et de son champion du monde 2018. Adil Rami qui ne s'est pas défilé, il est venu répondre à la fin du match à nos confrères de Canal+. Écoutez.
Heureusement qu'on a gagné, on était dans le match, c'était une belle première mi-temps, on était bien et puis en 10 minutes, j'ai relancé le match à moi tout seul. Voilà, je prends ma responsabilité, mais ça fait partie du football, c'était dur mentalement, très très dur. J'ai vu les étoiles à un moment donné, c'était pas facile de relever la tête, mais au final on a gagné, donc voilà, je pense que je dois redoubler d'efforts et remettre, on va dire, les points sur les i très rapidement.
Voilà, du travail encore pour Adil Rami. En revanche, l'autre champion du monde marseillais, enfin l'un des deux autres avec Steve Mandanda, Florian Thauvin, semble déjà très affûté. Un but, une passe décisive en 30 minutes de jeu. Autre bon point pour la recrue, Kevin Strootman, très intéressant pour sa première olympienne. L'OM, cinquième de Ligue 1 ce soir.
Cinquième, juste devant le Stade Rennais.
Rennes, vainqueur 2-0 de Bordeaux au Roazhon Park. But de Benjamin André et Rami Bensebani. Tout cela sous les yeux d'un certain Atem Ben Arfa, recruté officiellement par le club breton aujourd'hui, annoncé un peu partout, notamment à Nice où il avait brillé le temps d'une saison. L'ancien parisien a pris son temps pour faire ce choix. Écoutez ses explications.
Ça a été un choix qui s'est fait avec beaucoup de réflexion. J'ai eu beaucoup de sollicitations, donc j'ai pris du temps à étudier tout ça et je me suis dit qu'il fallait que j'aille dans un projet qui me correspond à tous les niveaux, au niveau humain, au niveau sportif. Il y a aussi Nice qui était là. J'ai passé une année exceptionnelle là-bas avec tout le monde, avec ceux qui s'occupent du club, avec les supporters. Je me suis bien senti dans la ville, mais c'est quand même compliqué aussi de retourner avec son ex.
Voilà les conseils d'Atem Ben Arfa, Hugo.
On note.
On n'oublie pas l'autre match de la journée. C'était pas très intéressant. En tout cas, ça s'est conclu par un 0-0 entre Saint-Etienne et Amiens. Les Stéphanois sont 9e, les Amiénois 14e d'une Ligue 1 toujours dominée par le PSG.
Merci Thomas de Saint-Léger, Monsieur Ligue 1 dans Mondial Sport ce week-end. Ailleurs en Europe et en Angleterre plus précisément, Arsenal s'est imposé à Cardiff à l'occasion de la 4e journée de Première Ligue. Succès 3-2 des Gunners grâce notamment à Pierre-Emerick Aubameyang. Première réalisation de la saison pour le Gabonais, grâce également à Alexandre Lacazette, le Français, buteur décisif en fin de partie. Succès également de Manchester United à Burnley, score final 2-0. Résultat, José Mourinho, qui s'est autoproclamé comme l'un des meilleurs managers qui existent, peut respirer. En tout cas, il s'évite momentanément une petite crise. Mais la sensation du jour, c'est une nouvelle fois Watford. Quatrième victoire en 4 rencontres pour un club que personne n'attendait à ce niveau. L'équipe londonienne suit le rythme imposé par Liverpool et Chelsea, et ce après un succès de prestige ce dimanche face à un autre club de la capitale anglaise, Tottenham, victoire 2-1. Et puis en Espagne, le Barça poursuit également son sans faute avec un carton, c'est moins que l'on puisse dire, victoire 8-2. Au Camp Nou, aux dépens du promu Huesca, qui avait pourtant ouvert la marque. Mais voilà, quand on énerve l'ogre catalan, voilà ce qui arrive. Le Barça en tête de la Liga, à égalité de points avec le Real Madrid. Direction l'Italie à présent, lourde défaite de Naples à Gênes face à la Sampdoria, à l'occasion de la 3e journée de Serie A. La Fiorentina, qui s'impose également 1-0 face à l'Udinese. On va parler un petit peu de tous ces matchs, de tous ces résultats du jour. Mais d'abord, on va parler de la Juventus Turin qui a joué hier. Elle s'est imposée à Parme sans le moindre but de Cristiano Ronaldo, encore et toujours muet. Bonsoir Matteo Cioffi.
Bonsoir Hugo.
Alors vous êtes notre correspondant en Italie. La vieille dame, je le disais, se porte bien. Merci pour elle. Mais sa recrue star ne marque toujours pas. Le quintuple ballon d'or portugais resté muet après déjà 3 matchs disputés. Forcément, ça fait parler dans la botte.
Ah oui, c'est étonnant, mais même aujourd'hui, la presse transalpine a discuté du fait que Cristiano Ronaldo n'arrive pas encore à marquer, plutôt que se concentrer sur la victoire pas facile obtenue hier au parlement de Max Allegri contre Parme. Qu'est-ce qui se passe au talent portugais, s'interroge les médias, et il y en a déjà qui sont en train de parler de petites crises de joueurs. Tout semble un peu exagéré. Et pour amener tout le monde à l'ordre, essayer de calmer les esprits, c'est le même Max Allegri qui s'est exprimé sur cette affaire. Les techniciens, hier soir, après le match, a tout d'abord rassuré que Ronaldo n'a aucun problème, et après la trêve, il trouvera sans aucun doute la voie défilée. L'entraîneur ensuite a ajouté que ce n'est pas possible de croire qu'en Italie quelqu'un puisse marquer 40 buts en un seul championnat et que donc même quelqu'un, le meilleur joueur au monde comme CRS, peut trouver quelques difficultés à battre les gardiens adversaires. Relax, c'est un peu le mot d'ordre de Max Allegri.
Alors vous qui suivez de près le football italien, qui le connaissez mieux que personne, Matteo, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous les expliquez, les difficultés de Cristiano Ronaldo? Comment vous expliquez son adaptation, on va dire, perfectible au sein de la Juventus Turin?
Ben, je vois que Ronaldo doit tout d'abord s'habituer à un jeu certainement plus défensif qui est celui italien par rapport à celui des autres pays. Et de plus, actuellement, la Juve adopte une tactique qui prévoit plusieurs attaquants et aucun avant-centre pur. Pour cela, Ronaldo ne s'épargne pas et joue beaucoup pour aider ses coéquipiers. Ce qui ne veut pas dire que le Lusitain ne cherche pas à réaliser de goal. Il faut en effet savoir que dans ses trois premiers matchs, c'est lui, le bianconero, qui a tiré les plus vers le but adversaire 23 fois. Sommes-nous prêts à parier que la 24e sera la bonne? Moi, je crois bien que oui.
Alors, on prend les paris. Matteo, l'un des objectifs de Ronaldo, c'est bien évidemment d'aider la Juventus Turin à conserver sa couronne en Serie A. Quels seront les concurrents de la vieille dame cette saison, Matteo? On attendait Naples, mais le Napoli d'Ancelotti, je le disais en introduction, s'est incliné ce dimanche.
Oui, en effet, pour rester dans le monde des paris, on pensait que ça serait été un mano Naples-Juve, mais non, Naples, comme dans les deux premiers matchs, a entamé ce soir la rencontre de manière très négative, et si avec la Lazio et l'AC Milan, l'équipe menée au score a su relever la tête jusqu'à gagner la rencontre, ce soir, le 11 de Carlo Ancelotti semblait très peu inspiré et sans grandes idées tactiques. Devant lui, une Sampdoria en grande soirée, essentiel rapide, et qui a su relancer le français Grégoire Defrel, l'auteur d'un doublé, la saison dernière avait été très décevant à la Rome. Donc, score final 3-0 pour le club de Gênes, qui a mérité cette belle victoire. Naples, prestation embarrassante. Ancelotti doit faire au plus tôt des corrections.
Matteo Cioffi, correspondant de RFI en Italie. Nul doute, Matteo, que vous suivrez les débuts de la Squadra Azzurra, l'équipe nationale italienne absente de la dernière Coupe du Monde en Ligue des Nations. Ce sera ce vendredi face à la Pologne. J'en profite pour vous dire que demain débute une trêve internationale qui va notamment laisser place à cette nouvelle compétition européenne, la Ligue des Nations. On y reviendra bien évidemment dans Radio Foot International sur RFI. Allez, un dernier mot de football, c'est officiel. Yaya Touré retourne en Grèce, le grand milieu de terrain ivoirien âgé de 35 ans, 4 fois joueur africain de l'année de 2011 à 2014, vainqueur de la CAN en 2015, quitte Manchester City après 8 saisons souvent exceptionnelles, 3 premières ligues remportées. Il retrouve un club qu'il connaît bien, à savoir l'Olympiakos Le Pirée, une équipe au sein de laquelle il avait déjà évolué lors de la saison 2005-2006.
Mondial Sport sur RFI.
On passe au cyclisme. Le Tour d'Espagne, soit la troisième et dernière grande course à étapes de la saison, a pris de la hauteur ce dimanche. On retrouve notre correspondant à Madrid de suite, Pierre Chaperon. Bonsoir.
Bonsoir Hugo.
Neuvième étape de cette Vuelta 2018 ce dimanche entre Talavera de la Reina et la Covatilla. Désolé pour la prononciation hasardeuse. Un peu plus de 200 km dans le centre-ouest du pays. Et victoire de l'Américain de la Dimension Data, l'équipe sud-africaine Ben King.
Oui, avec cette image de la souffrance du vainqueur du jour après l'arrivée, Ben King, qui pendant plusieurs minutes a essayé de retrouver son souffle. Il s'est assis devant les panneaux publicitaires à côté du public, exténué, tellement l'effort a été intense, le souffle n'était pas encore tout à fait retrouvé quand il est allé dans cette sorte de chambre d'appel avant le podium protocolaire, aidé par les assistants techniques de son équipe pour se déplacer. Il faut dire que le programme était chargé dans cette première grande étape de montagne sous une chaleur encore accablante, plus de 30 degrés sur la route. 4 difficultés au programme, dont l'arrivée hors catégorie qu'on compare ici souvent à un petit Mont Ventoux espagnol, 9,8 km à 7,1% de moyenne avec des pointes à 16%. King, qui faisait partie de l'échappée du jour, elle a duré 194 km. Ils étaient 11 dans ce groupe. Ben King, qui a bien joué, il est parti en solo à 20 km de l'arrivée. Deuxième succès dans cette Vuelta 2018 pour l'Américain, lui qui n'avait jamais remporté de victoire dans un grand tour. On écoute le roi du jour, Ben King.
J'avais dit que remporter une étape sur cette Vuelta, c'était un rêve qui se réalisait. J'avais vraiment travaillé dur pour ça. Remporter une étape sur un grand tour était un de mes objectifs les plus importants. Aujourd'hui, je voulais montrer que cette étape n'était pas due au hasard. L'équipe et moi, nous avons très bien préparé cette victoire.
le vainqueur de l'étape du jour, Ben King. Pierre, il y a des changements au classement général ce dimanche.
Le maillot rouge de leader sur les épaules de Simon Yates, le Britannique qui avait porté le maillot rose sur le Tour d'Italie pendant 13 jours cette année. Pas de franche explication dans l'ultime ascension du jour, on s'est jaugé sur tout. On retiendra quand même l'accélération dans les derniers mètres de Kellerman qui a permis à Quintana, Urán, Miguel Ángel López et donc Yates de grappiller des minutes. Yates qui devance pour une seconde au classement général Alejandro Valverde. Quelque peu décroché dans les derniers hectomètres, l'Espagnol, vainqueur déjà d'une étape sur cette Vuelta, se contente de ce qu'il a au micro de la télé publique espagnole.
Il faut être content et féliciter Yates aussi. Je suis à une seconde et il reste beaucoup d'étapes. C'est aussi important de remporter des étapes pour l'équipe. Toute la journée, ça a été difficile, mais les sensations n'ont pas été si mauvaises. Même dans la dernière ascension, tout le monde était dans le dur. Je suis content, bien sûr, j'aimerais porter le maillot rouge, mais je suis les consignes de mon équipe. Ce n'est pas moi qui décide.
Pour l'équipe, je crois que c'est un peu moins de responsabilités.
L'Espagnol Alejandro Valverde, Simon Yates, le nouveau leader du général, Pierre, prend le maillot rouge à un Français, Rudy Mollard.
Le Français qui était en difficulté aujourd'hui hein, sur les rampes du Cobatilla, pas vraiment sa spécialité. Il pointe maintenant à 2 minutes 43 du leader à la 17e place du général. Aucun regret après 4 étapes. En rouge, des Français en évidence hein, cette semaine dans cette Vuelta. Vendredi, Tony Galopin a remporté une étape. Sixième Galopin du classement général à 24 secondes de Yates. On parle aussi de Thibaut Pinot qu'on avait laissé souffrant d'une très grosse pneumonie dans l'avant-dernière étape du Tour d'Italie. Lui est 16e au général à 2:33 avec un coup à jouer dans les prochains jours.
Les coureurs sont au repos demain sur cette Vuelta Pierre du côté de Salamanque avant une grosse fin de semaine.
Oui, avec mardi, mercredi et jeudi, des parcours accidentés pour sprinteurs, voire baroudeurs, avant de commencer une sorte de triptyque dans les Asturies au nord du pays, avec notamment la vertigineuse montée du lac du Covadonga. 12 km 600 à 7,3% de moyenne, c'est à peu de choses près les mêmes chiffres que une montée très connue en France, celle de l'Alpe d'Huez. Pedro Delgado, Laurent Jalabert s'y sont imposés à 2 reprises au lac du Covadonga. Et ça pourrait être le moment fort, très fort de cette Vuelta. Rendez-vous le dimanche prochain.
Pierre Chaperon à Madrid du cyclisme au volleyball. Il n'y a qu'un pas dans Mondial Sport, le mondial justement de volleyball approche en Italie, en Bulgarie. Coup d'envoi dimanche prochain. C'est en Bulgarie à Rousset que l'équipe de France vainqueur de la Ligue mondiale l'an passé débutera face à la Chine. Cédric de Oliveira, bonsoir.
Bonsoir Hugo.
Les Bleus ont bouclé leur préparation ce dimanche à Paris avec une victoire à l'arraché face à la Serbie. De quoi faire le plein de confiance.
Oui, c'était la dernière répétition avant le grand départ donc pour la Bulgarie. L'équipe de France voulait bien faire devant son public du stade Pierre de Coubertin à Paris. Elle s'est donc imposée face à une coriace équipe serbe en 5-7 au 15-12 dans le tie-break, l'équivalent de la cinquième manche. Satisfaction donc pour l'un des tauliers de ces Bleus, le capitaine Benjamin Tonuti.
C'est sûr que c'est bien de gagner un dernier match. En plus, voilà, devant notre public, une belle salle, donc c'est top contre une grosse équipe en plus.
Voilà, la Serbie n'est pas n'importe qui. Elle a notamment remporté la Ligue mondiale en 2016 et elle a terminé troisième du dernier championnat d'Europe l'an dernier. Elle a fait souffrir les Bleus, notamment dans les deux premiers sets, grâce à son exceptionnelle qualité de service. Kevin Leroux et ses partenaires ont eu bien du mal à s'adapter.
Bah, c'était un peu instable. On a eu un peu de mal à se mettre dedans. Et puis voilà, après, bon, c'est les choses qui arrivent. Et puis voilà, faut réagir vite. Et c'est ce qu'on a fait. C'est bien.
Après le gain des deux premières manches, les Serbes ont joué un ton en dessous. Et les Bleus en ont profité dans le sillage, notamment de Julien Linel, qui a marqué plusieurs points importants de 7 à sens unique. Puis le tie-break arraché, donc 15 à 12. Ça a été dur, mais le sélectionneur Laurent Tilly est satisfait. Ce genre de scénario va forcément servir à ses joueurs au mondial.
Ce qui était important, c'était voilà de se rappeler ce que c'était de souffrir pour gagner. Parce qu'en fait, aucun match ne sera facile. Ce sera vraiment dans la difficulté. Et il faut se remettre ça en, en, en mémoire, savoir quand le bras ne tremble pas, savoir aller chercher la balle, savoir être patient quand ça allait mal comme au tie-break. Voilà, ça c'était très important au niveau du travail.
Des Bleus qui se rendront en Bulgarie avec ambition, eux qui ont déjà été sacrés champions d'Europe en 2015 et deux fois vainqueurs de la Ligue mondiale. Cette fois, ils veulent franchir une étape et pourront compter sans doute sur le retour d'Ervin Ngapet, absent pour cause de blessure dans cette fin de préparation. La star qui fera du bien au mondial, comme l'explique le jeune Stéphane Boyer, 22 ans.
Lui, après, il emmène quelque chose de plus puissant que le volet en lui-même derrière. Et je pense que c'est là-dessus qui nous aide énormément, qui nous amène la sérénité. Et on a forcément envie que tout le monde soit là et prêt en canne pour le championnat.
Voilà, Stéphane Boyer, le pointu, celui qui termine les points des Français au filet. Voilà, avec le retour de Ngapet, les Bleus semblent parés pour la compétition. En tout cas, Laurent Tilly en est convaincu.
En tout cas, on a bien travaillé, on s'est bien dépensé, on a bien progressé. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à jouer.
Voilà, il n'y a plus qu'à, nous dit Laurent Tilly. Les Bleus s'envoleront pour la Bulgarie à Rousset. Hugo, vous l'avez dit tout à l'heure, ils rentreront directement dans leur compétition face à la Chine. Ce sera mercredi dans une dizaine de jours.
Et ce sera un peu plus tard que l'entrée en lice de l'Égypte, qui elle affronte le Brésil. Merci Cédric d'Oliveira. On prend la direction du Mali pour refermer ce numéro de Mondial Sport où l'afro-basket des moins de 18 ans vient de se refermer et le Mali est de nouveau champion d'Afrique de la catégorie, Eric Churin.
Ouais, les Aiglons sacrés champions d'Afrique après une finale extrêmement disputée contre les jeunes Sénégalais, remportés 78 points à 76 à Bamako ce soir. Le Mali avait creusé l'écart dans le deuxième quart-temps pour mener de 9 points à la pause, mais le Sénégal a repris l'avantage d'un point à l'entame du dernier quart d'heure. Les Maliens ont donc bataillé jusqu'au bout pour décrocher ce premier titre et faire la joie de leurs supporters. Dans la salle du Palais des Sports Salamatou Maéga, où un peu plus tôt l'Égypte a complété le podium en battant l'Angola, championne sortante de la catégorie, 89-78. À l'heure des bilans, Hugo Mahamadou Kaloga a rencontré le chargé de communication de la FIBA Afrique et à ce titre grand observateur du basket sur le continent, Lamine Badiane. Et pour lui, il y avait, comme on dit, du niveau à Bamako.
Sur cette compétition, il y a quand même 25 professionnels. Quand je dis professionnels, ce sont des garçons qui viennent des différentes académies entre l'Europe et les États-Unis. Alors, ces garçons-là ont apporté un niveau de jeu extraordinaire par rapport à ce championnat. Puisque la dernière édition que nous avions faite a été au Rwanda. Et aujourd'hui, on est ici à Bamako. On sent qu'il y a eu une amélioration du niveau de jeu. La preuve, par exemple, l'équipe du Mali. Je ne suis pas étonné qu'on voit un jeune garçon Balot qui a émerveillé tout le public. Même si on doit considérer que Balot est encore cadet, hein, mais quand même il s'en sort dans une catégorie de 18 ans. Il y a Sirimon Kanouté qui aussi a été meilleur marqueur de la Coupe du Monde U17. Balot, meilleur rebondeur de la Coupe du Monde U17. Donc ça prouve que, quelque part, on a des joueurs, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali, que ce soit même au Rwanda, où il n'y a pas eu de professionnels, des joueurs professionnels, mais qui ont mené une politique intéressante pour le développement du basketball des jeunes. Et c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, vraiment, au niveau de la FIBA, on est satisfait de certaines équipes, comme celle du Rwanda, comme celle du Congo qui s'est qualifiée aussi, et aussi sans oublier bien sûr cette équipe égyptienne qui n'a pas eu de professionnel mais qui nous a régalé au niveau du public.
Un public régalé jusqu'à la finale donc entre le Mali et le Sénégal. Les deux équipes représenteront le continent aux Mondiaux des moins de 19 ans l'été prochain et cela réjouit Lamine Badiane.
Si j'étais vraiment un entraîneur, je serais heureux parce que d'un côté vous avez le Mali qui a 6 à 7 professionnels. De l'autre côté, vous avez l'équipe du Sénégal, qui a 8 professionnels, qui viennent d'Espagne, qui viennent des États-Unis. Même chose chez les Maliens. Au vu de l'expérience qu'on a eue sur les U17 et que c'est à peu près la même équipe à quelques éléments près pour le Mali, nos deux représentants défendront bien le titre africain sur cette Coupe du Monde.
Lamine Badiane au micro RFI de Mahamadou Kaloga.
Merci à eux et merci à vous, Eric Chorin, pour votre contribution à Mondial Sport ce week-end. Le tennis, avant de se quitter, pourquoi pas, Dominic Thiem et Rafael Nadal qui se retrouveront en quart de finale de l'US Open. Dominic Thiem, il a éliminé en 8e ce dimanche le géant sud-africain Kevin Anderson, finaliste l'an passé. Et puis la F1, victoire de Lewis Hamilton en Italie à l'occasion de la 14e manche des championnats du monde. Ciao, bonne soirée sur la radio.